On a déjà passé un bon temps dans la présence du Seigneur, mais on va continuer avec ce temps autour de sa parole. Je voudrais qu'on fasse plusieurs lectures, une première lecture dans le livre des Chroniques, au chapitre 28 et le verset 9. 1 Chronique 28, 9. Il s'agit d'une parole que David a adressée à Salomon, son fils, une recommandation, alors que David est à la fin de sa vie. Voilà ce qu'il dit à son fils. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Psaume 139, verset 23. C'est la même pensée qui est redite par David, mais d'une autre manière. Psaume 139, verset 23. C'est plus facile de trouver les psaumes que les chroniques, hein. Je suis d'accord. Voilà ce que nous pouvons lire au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Quel est le lien entre ces passages? Le lien, c'est le fait que Dieu est celui qui sonde nos cœurs. Il est celui qui sonde nos pensées. Alors ça peut être une recommandation que quelqu'un nous dit. Laisse ton cœur être sondé par le Seigneur, comme ça a été le cas pour David envers son fils, ou ça peut être aussi une prière. Je ne sais pas si c'est une prière que vous aimez faire devant Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. Éprouve mes pensées, parce que il y a de quoi faire. Parce que nos pensées partent parfois dans tous les sens. Parce que nos pensées sont accaparées par les choses de ce monde, mais le Seigneur est celui qui est capable de nous faire voir clair dans notre cœur. Alors, il y a une question, une façon de poser des questions que Jésus emploie souvent dans les évangiles et qui, justement, a un lien avec ce que nous venons de partager. C'est quand Jésus dit « Pourquoi ?» Vous avez remarqué que plusieurs fois, Jésus dit « Pourquoi ?» à certaines personnes. J'ai pris des exemples. Il a dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Donc, justement, la question « Pourquoi ?» elle est là pour est-ce que Jésus avait besoin de savoir? Ben, il le savait déjà, hein. Jésus, il a la capacité de voir au fond des cœurs. Il est le seul qui a cette capacité de voir au fond des cœurs. Mais il leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Je sais pas si vous vous souvenez de l'époque où vous avez été à l'épreuve du bac, l'épreuve de philosophie. Souvent, dans les épreuves de philosophie, il y avait une question qui commençait par « Pourquoi ?» J'ai pris un exemple, la filière ES en 2014, il y a quelques années. « Pourquoi chercher à se connaître soi-même ?» Voilà, vous avez une heure pour répondre. Qui c'est qui est content? On est content que ça soit fini pour nous. Bon courage pour ceux qui vont passer le bac, parce que c'est ce genre d'épreuve qui vous attend. Mais autant ça, c'est des choses qui font réfléchir, qui font chauffer le cerveau, pour pas grand-chose au final. Bon, si, quand même un diplôme. Mais c'est tellement plus intéressant de répondre aux questions que le Seigneur nous pose quand il nous dit pourquoi, quand il nous demande quelles sont ces pensées qui sont au fond de notre cœur. Quand le Seigneur nous dit pourquoi est-ce que tu as telle pensée, ben c'est justement pour qu'on y voit plus clair et qu'on filtre et qu'on épure nos cœurs devant lui par sa grâce et par son esprit. On va résumer avec trois questions que le Seigneur va poser à plusieurs personnes. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi pleures-tu? Et pourquoi me persécutes-tu? Trois pourquoi que Jésus a posés et sur lesquels on va méditer ce matin. Alors, on va aller dans Marc. Marc, au chapitre 4 et au verset 35. Je ne sais pas si vous vous souvenez le contexte de cette question. Pourquoi avez-vous peur? Marc, chapitre 4, verset 35, ça nous l'explique bien. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Mais le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Pourquoi avez-vous peur ? Oh, ils auraient beaucoup d'explications à donner hein, sur pourquoi ils avaient peur. Parce qu'il y avait de quoi en plus, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous avez déjà pris un bateau, parce que déjà c'est pas très courant aujourd'hui de prendre le bateau, mais en plus prendre un bateau quand il y a la tempête. Mais c'est pas quelque chose qui nous rassure beaucoup. On préfère le plancher des vaches. On préfère être là, sur quelque chose de solide, que sur le bateau qui est au milieu de la tempête, il est secoué de tous les côtés. En plus, pour ceux qui supportent pas les secousses, il y a le mal de mer qui va se rajouter. On peut comprendre tout à fait pourquoi est-ce que ces personnes avaient peur. Peut-être qu'ils regardaient la taille des vagues, peut-être qu'ils regardaient la puissance des tourbillons qui s'étaient créés, peut-être qu'ils voyaient le vent qui soufflait fort et le sentaient, et ils voyaient que les voiles avaient la peine à tenir, qu'elles étaient en train de craquer de tous les côtés, l'eau s'engouffrait sur le bateau. Voilà, on peut imaginer tout ce qui se passait dans leur cœur. On peut imaginer l'obscurité qui les avait envahis aussi. Vous savez, quand il y a une tempête, quand il y a la pluie qui vient, on voit d'un coup que un gros nuage noir vient et cache la lumière. Ça, on l'a tous vécu. Et on imagine ce que ça peut faire dans leur cœur. Mais Jésus leur pose quand même la question. Donc c'est intéressant de s'y arrêter. Pourquoi avez-vous peur ? Sous-entendu, je sais très bien que c'est à cause de tout le vent que vous avez peur. Mais pourquoi est-ce que vous laissez la peur être en premier dans votre vie ? Vous savez, souvent, quand le Seigneur nous pose des questions, c'est qu'il veut aller au fond, lui. Il veut aller en profondeur. Et nous, souvent, on s'arrête un peu à la surface. Nous, on reste bloqués sur les choses évidentes. Imaginez que vous êtes en train de prendre l'avion. À côté de qui est-ce que vous préféreriez vous asseoir ? Quelqu'un qui tremble, qui raconte toutes les histoires de catastrophes aériennes dont il a connaissance les 20 dernières années, et à chaque trou d'air, à chaque secousse, qui hurle à la mort ? Ou alors quelqu'un qui est dans le calme et dans la paix ? Qu'est-ce que vous choisissez ? On est d'accord que quelqu'un qui est stressé à côté de nous, ça risque de nous communiquer quelque chose de mauvais. Mais c'est bon, quand on est croyant, d'être dans cette dimension du calme et de la paix malgré la tempête. Et que ça soit pas la peur qui domine dans notre vie, mais que ça soit la foi qui surpasse la peur. Comment est-ce qu'on peut avoir la foi malgré la tempête ? Quelle est la seule solution finalement pour avoir la foi, pour avoir la paix malgré la tempête ? À votre avis ? C'est pas difficile, hein, faut lire l'histoire, réaliser que Jésus est là. Quand Jésus est dans notre barque, mais on peut être dans la paix. Les disciples savaient que Jésus était là. Peut-être qu'ils n'avaient pas conscience exactement de la dimension de la personne de Jésus, mais ils savaient que Jésus était là, puisqu'il était en train de dormir. Oh, il parlait pas beaucoup, puisqu'il dormait. Des fois, dans nos vies, Dieu semble faire silence. Des fois, on a l'impression que le ciel est fermé, que rien ne se passe. Mais est-ce que les disciples n'avaient pas déjà une parole sur laquelle ils pouvaient s'appuyer ? Est-ce que les disciples n'avaient pas déjà quelque chose auquel ils pouvaient se raccrocher ? Ben oui. Passons de l'autre bord. Jésus leur a dit, vous inquiétez pas, on va arriver de l'autre côté. Il leur a dit ça dès le début. Il leur a pas précisé qu'il allait avoir quelques petits incidents au milieu, mais il leur a dit, passons de l'autre bord. La volonté de Dieu, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Et les disciples ont laissé l'environnement, les circonstances, submerger leur cœur, ont laissé les pensées de peur les dominer et oublier la parole qui avait été annoncée. Et le Seigneur nous rappelle que c'est par sa parole que nous pouvons avoir la paix. Il n'y a pas d'autre moyen dans ce monde? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui dirige notre vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui a cette autorité dans notre vie? Alors, nous serons rassurés quelles que soient les circonstances. Alors, nous réaliserons que Dieu est présent avec nous. Est-ce que nous avons besoin de ressentir la présence de Dieu? Ou est-ce que nous avons besoin de savoir que Dieu est présent? Des fois, on ressent la présence de Dieu, n'est-ce pas? Des fois, ça, chacun le vit de manière différente. Et l'un, il va dire « Ah, j'ai senti une chaleur !» Et l'autre, il va dire « Ah, j'ai eu froid d'un coup !» Mais à la limite, c'est pas grave. Chacun est différent. Le plus important, c'est de savoir que Dieu est là. Et Dieu a dit dans sa parole, par exemple, qu'il est présent au milieu de deux ou trois personnes qui invoquent son nom. À un moment donné, il a dit à ses disciples, « Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» Il parle des choses d'ici-bas. Pourquoi est-ce que vous inquiétez du manger et du boire, alors que vous n'avez pas une autorité sur tout ce qui vous arrive ? L'inquiétude des choses d'ici-bas nous détourne du royaume de Dieu. Et le Seigneur nous invite à nous inquiéter de ce qui est le plus important, à être interpellé dans notre cœur, à réfléchir, à avoir les pensées pour les choses importantes et primordiales qui sont celles de la foi, afin que Dieu nous donne la sagesse de bien gérer tout le reste. D'ailleurs, il dit à un moment donné, quand on est bien ce verset, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, la seule inquiétude valable que vous pouvez garder dans votre cœur, c'est de demander au Seigneur, de faire connaître votre besoin. Les autres, il faut les balayer. Oh, ça veut pas dire qu'on en a jamais, ça veut pas dire qu'il faut s'auto-convaincre, je suis inquiet, mais je veux faire semblant de pas l'être. Non, c'est pas ça. J'ai quelque chose qui me préoccupe. Mais je crois que j'ai un Dieu qui est plus puissant que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin qui vous préoccupe? Vous n'allez pas me répondre, je le sais. Mais je sais qu'il y a des choses qui vous préoccupent. Parce qu'on est tous pareils. Mais vous préférez garder les préoccupations dans vos cœurs, les pensées de peur, ou vous préférez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui, celle qui peut nous garder, celle qui peut nous protéger. À Pierre qui a vécu un petit peu la même chose à un autre moment donné, Jésus a étendu la main, l'a saisi alors qu'il est en train de couler, et puis il lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Encore une fois, pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce qui t'a amené jusque dans le doute? Alors que tu as vécu une expérience incroyable, marcher sur les eaux, c'est incroyable. N'importe quel chrétien dans ce monde voudrait vivre ça. On sait que Pierre a pu le vivre. Et le Seigneur ne nous a pas dit que nous allions tous le vivre. Mais lui, il vient de vivre ça, et pourtant dans son cœur s'est fait des pensées de doute qui l'ont amené à être en train de couler au milieu des flots et de la tempête. Mais Pierre ne se voit pas reprocher par Jésus sa peur, il se voit reprocher le doute. Combien le doute, c'est quelque chose qui peut nous amener à manquer pendant un moment ce que le Seigneur veut pour nous. La parole de Jésus nous amène dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend la parole. On partageait encore cela vendredi soir. Mais la peur qui s'installe dans nos pensées, si on la laisse dans nos pensées, peut nous amener jusque dans le doute. Et le doute peut détruire la puissance de la parole dans nos vies. Bien sûr que le doute ne remet pas en question la Bible. Mais le doute remet en question la puissance, la manifestation de la parole de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est puissante? Je peux vous dire que la parole de Dieu est puissante. Quand je vois de quelle manière le Seigneur est capable d'honorer sa parole dans la vie des personnes qui lui font confiance, des personnes qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui lisent un verset et qui disent « ça c'est pour moi, je crois que le Seigneur va le faire » et que Dieu agit en conséquence, quand je vois des gens qui et marcher dans l'esclavage du péché, qui sont totalement transformés juste en mettant leur foi dans la parole, je peux vous dire que la parole de Dieu est puissante. Je me réjouis chaque semaine de voir comment la parole de Dieu est capable de modeler les uns et les autres. Et C'est vraiment merveilleux de la laisser agir en nous. Mais ne laissons pas des pensées de doute ou de peur demeurer. Mais plutôt faisons comme il est dit dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous le faites, ça? Est-ce que vous appliquez ce filtre à vos pensées? Quand il y a des choses qui se présentent, vous savez, le diable ne peut pas lire dans nos cœurs, mais il peut injecter dans nos cœurs des pensées mauvaises. Est-ce que nous prenons la peine de filtrer ces pensées? Ou est-ce qu'on laisse tout passer comme ça vient? Est-ce qu'on laisse la télévision nous inoculer toutes ces pensées et on réfléchit même pas à ce que ça nous fait comme effet? Ou alors on dit non, moi je veux que ça soit vrai. Je veux que ça soit honorable, juste, pur, etc. Je veux que ça soit ça qui demeure. Ce qui est, les pensées qui sont en nous et qui sont de cet ordre-là vont amener du bon fruit. Et si c'est de mauvaises pensées, la peur, le doute, l'inquiétude, ça va amener un mauvais fruit, tout simplement. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a quelques années en arrière, c'était à Toulouse, j'avais cogné le trottoir avec la voiture et ça avait créé une hernie sur le côté du pneu. Résultat, il fallait que je change le pneu. Donc logique jusque-là. Alors, j'ai noté les références sur un bout de papier et puis je suis allé chez le garagiste pour prendre rendez-vous, etc. Et puis le jour du rendez-vous, une heure avant, j'ai regardé mon papier que j'avais noté. Et puis, j'ai regardé le devis que m'a fait le garagiste. Et puis, j'ai vu que ça correspondait pas. Alors, j'étais inquiet. J'ai commencé à faire tout le film. Il va falloir que j'aille voir le garagiste, que je reprenne un autre rendez-vous. Avec le planning, c'est compliqué, etc. J'ai commencé à batailler dans ma tête pour plein de choses. Et puis, à un moment donné, je regarde à nouveau mon papier. En fait, j'avais mal lu. C'était la même chose. Et tout était bon, en fait. Mais j'ai bataillé pour rien pendant 5 minutes. Tout ça parce que je suis parti sur de mauvaises bases. Alors c'est un petit exemple tout simple. Aujourd'hui la voiture a les pneus changés, vous inquiétez pas. Mais c'est un petit exemple simple pour montrer que parfois on bataille pour pas grand chose. Et sur les choses plus intéressantes qu'un pneu de voiture, sur les choses qui concernent notre cœur. Parfois on laisse un petit élément de doute perdurer et après on commence à bricoler. Des fois on est fort en tant que réalisateur. On serait tous plus forts que n'importe quel réalisateur de film parce qu'on commence à se faire des films à partir de tout petits détails et on ne prend pas la peine de vérifier que le détail, il est vrai ou pas. Mais je veux que ça soit vrai. Tout ce qui est vrai, honorable, pur, aimable, ça soit l'objet de mes pensées. Oh, vous savez qu'on ne peut pas se tromper quand c'est la parole de Dieu qui est la base. Hein. Quand la parole de Dieu est le socle de notre vie, alors on ne peut pas se tromper. Les peurs vont être balayées, les inquiétudes vont être enlevées, et c'est la paix de Dieu qui va germer dans notre cœur. Dans Jean chapitre 20, verset 15, Jésus a dit à quelqu'un, « Pourquoi pleures-tu » Est-ce que vous vous souvenez à qui c'est ? À Marie. Jean 20, verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Marie est en train de pleurer parce que elle est allée au tombeau. Le tombeau est vide, pas de corps de Jésus. Il vient de mourir, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Le tombeau est vide. Mais c'est pas des larmes de joie en disant, « Il est ressuscité, elle ne le sait pas encore. » C'est des larmes parce qu'elle croit que le corps a été volé. Pourquoi pleures-tu? Est-ce qu'elle avait raison de pleurer? Ben, quand on sait l'histoire, on sait. Ben non. Jésus, il est devant elle. Elle est en train de pleurer parce qu'on a volé le corps du Seigneur, alors que le corps du Seigneur est là devant elle. Et le Seigneur est là, présent. Mais elle pleure. Vous savez, parfois, les raisonnements que l'on a, les pensées d'intelligence humaine que l'on a, ben nous aveuglent quant à la réalité des choses. Et parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ceci? Nous on aime bien employer les pourquoi à Jésus. Hein. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ceci? Seigneur, pourquoi? Ça se passe comme ça dans ma vie. Mais le Seigneur nous dit, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi est-ce que tu es en train de te lamenter? Regarde la réalité. Regarde ce qu'il en est vraiment. Tu penses que peut-être Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie, mais regarde, Dieu est parfaitement à l'œuvre. Dieu a tout dans sa main. Dieu a la puissance pour changer les circonstances. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il n'est pas là en train de la condamner. Mais par cette petite question, il commence à la faire réfléchir. Elle n'a pas compris tout de suite, hein. Mais il lui dit simplement son prénom, Marie. Vous savez que le Seigneur vous connaît par votre nom. Ça, c'est merveilleux. Il a donné un nom à chacune des étoiles dans le ciel. Moi, j'aime bien m'amuser à compter les étoiles. Mais je sais que je finis jamais. Mais je me dis, mince, Dieu connaît le nom de chacune des étoiles. Et Dieu connaît le nom de chacun d'entre nous. De tous les êtres humains sur la terre. Et non seulement le nom, mais la vie, le cœur. Tout ce que nous avons besoin, le Seigneur le connaît. Mais je ne veux pas laisser le raisonnement de cette terme m'aveugler sur la volonté de Dieu. Je ne veux pas laisser les choses de cette terre m'amener à me tromper dans mes choix. Mais je veux présenter mon cœur, ma vie devant le Seigneur qui m'aime et qui me connaît vraiment. Quand nous ne comprenons pas, ne cédons pas à la tristesse, mais revenons à la parole de Dieu, toujours. La parole de Dieu, elle est éternelle. Dans Matthieu 26, 10, Jésus va dire à certaines personnes, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Là, c'est une femme qui est en train de laver les pieds de Jésus, et à un moment donné, on lui reproche, « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien ce que tu fais. » Et Jésus leur dit, « Non, mais pourquoi faites-vous de la peine ?» Parfois, nos raisonnements nous font pleurer à nous, et parfois, nos raisonnements humains font pleurer les autres aussi. C'est nous qui faisons la peine aux autres, par nos faux raisonnements. Bon, vous, ça vous arrive jamais. Mais ça m'est déjà arrivé parfois de me tromper dans mes raisonnements et ça crée des situations de tristesse. Mais si nous voulons aimer notre prochain, c'est pas avec des raisonnements humains qu'on va arriver à le faire. Alors vous savez, quand on raisonne humainement, on n'a pas envie d'aimer les gens, hein. Non, n'est-ce pas? On se dit, je reste chez moi, ça sera plus tranquille, au moins je me prends pas la tête avec les uns les autres. Mais si je réfléchis spirituellement, Dieu aime tout le monde. Dieu me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, remplis-moi de cet amour. Moi, je n'en suis pas capable, mais j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ton esprit. C'est ce qu'il a lu notre frère Claude. La puissance qui agit en nous, l'amour de Dieu qui agit en nous, nous permet de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. On va lire un autre passage, c'est dans Acte 9, le troisième pourquoi. Après des pensées de peur, après des pensées intellectuelles, des faux raisonnements, on peut se laisser piéger par des pensées passionnées et disproportionnées. Acte 9, verset 4, il s'agit du passage où c'est la conversion de l'apôtre Paul. Celui qui va devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Acte 9, on peut lire au verset 3, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. On imagine le raisonnement, les pensées, tout ce qu'il y avait dans le cœur de Saul à ce moment-là, quand il entend la voix, « Pourquoi me persécutes-tu » Peut-être qu'il aurait pu dire, « Mais Seigneur, je te persécute pas, je te sers. » Mais quand on voit ce qu'il est en train de faire, ce pourquoi il était sur le chemin de Damas, on comprend que c'était pas le service pour Dieu. On comprend que cet homme, il était plein de ferveur, plein de zèle, mais c'est pas parce qu'on est plein de ferveur et plein de zèle que forcément on est sur le bon chemin. C'est ce qu'on disait encore vendredi soir. Il y a des moments où on peut être plein de ferveur et de zèle, mais pour des mauvaises choses. Et ça nous amène à nous tromper. Pourtant, en plus, lui, c'est des choses qui concernent la foi. Je veux dire, si on est plein de ferveur et de zèle pour aller en boîte de nuit, bon là, on comprend tous que c'est pas bien. Mais là, c'était pas ça, c'était pour défendre sa religion. On pourrait se dire, bon, ça concerne les choses de Dieu, donc c'est bien. Aujourd'hui, quand même, on sait que quand on il y a du zèle pour la religion, ça peut être très 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 dangereux. Notre pays est blessé depuis ces dernières années par des choses comme ça. Mais Dieu nous appelle pas à une religion. Dieu nous appelle à être en communion avec lui. Dieu nous appelle à être dans un ferveur et un zèle d'amour avec notre Dieu. Et Jésus savait que cet homme était plein de ferveur, mais qu'elle était mal appliquée cette ferveur. C'est pour ça qu'il a voulu le recadrer, lui montrer l'état de son cœur. Et c'est bien parfois quand le Seigneur nous pose des questions, comme ça, ça nous montre l'état de notre cœur, ce qu'il en est vraiment. La parole de Dieu est appelée un miroir qui nous montre ce à quoi nous ressemblons vraiment. Parfois, on se fait des films aussi sur nous. Et on pense que tout va bien, que c'est parfait ce qu'on est en train de faire. On a pris les bonnes décisions. Mais quand on lit la parole, ben, il y a quelque chose, il y a une gêne. On est dérangé. Parce que Dieu nous montre que finalement, c'est peut-être pas le meilleur chemin que l'on a pris. Est-ce que nous aimons nous poser la question? Sonde-moi, ô Dieu. Montre-moi, Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie, un déséquilibre qui est là? Est-ce que Jésus ne peut pas nous dire aussi pourquoi me persécutes-tu? Vous allez dire, ah, quand même, là, c'est trop fort. Je ne suis pas en train de persécuter le Seigneur. Oh, mais je vais le dire autrement. Pourquoi est-ce que tu ne sanctifies pas mon nom aujourd'hui? Là, on peut plus se poser la question. Est-ce que nous devons sanctifier le nom du Seigneur? Ben oui. Comment on le fait? Ben, quand on laisse Dieu agir en nous et au travers de nous. Nous qui portons le nom de chrétien, de Christ, sur notre vie, nous devons vivre dans une vie sainte pour honorer le nom du Seigneur, pour le sanctifier aux yeux de ceux qui sont dans ce monde. Et parfois, on passe à côté de cela. Mais le Seigneur nous dit, si tu ne le fais pas, mais viens dans ma présence et laisse-toi envahir. Laisse-toi remplir de mon amour. Laisse-toi remplir et remettre en question par mon esprit. Viens chercher le pardon à la croix à nouveau, comme au premier jour. Alors, vous aimez vous tenir à la croix ou vous dites, non, c'est du temps passé. Je l'ai fait il y a longtemps. Maintenant, j'en ai plus besoin. Oh, quand on connaît le Seigneur, on sait que la croix, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Parce que on se souvient de ce que le Seigneur a fait. On sait aussi qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de ce temps où on revient, où on réforme nos voies, où on reprend du poil de la bête dans la présence de Dieu, où on met notre cœur à nu devant le Seigneur. Et le Seigneur nous permet de repartir comme au premier jour, avec un amour nouveau, avec un zèle nouveau également pour son service. À un moment donné, Jésus a dit aussi, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On a vite fait de regarder les autres avec un doigt accusateur, hein, mais on a besoin de regarder plutôt en nous d'abord. Et c'est le but de ce message ce matin qui est vraiment très simple. C'est que le Seigneur parfois s'arrête devant nous et nous dit « Pourquoi fais-tu ça ?» Je voudrais qu'on puisse prendre un temps à la fin de ce message pour laisser le Seigneur sonder nos cœurs. Peut-être pas un temps de prière à haute voix, mais un temps de silence quelques instants. Parce que je crois que c'est dans ces moments-là que le Seigneur parle à nos vies et à nos cœurs. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas le choix. Je l'impose. Je me permets de le faire. Mais parce que je crois que c'est bon. Vous savez que le seul moyen de ne pas être aveuglé par nos pensées, c'est que nos pensées soient livrées à Dieu. Que nos vies soient, nos pensées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et quand Jésus est au centre, quand la lumière du Seigneur brille, les pensées ténébreuses s'en vont, s'échappent. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et quand Jésus est présent, quand il est là par son esprit, alors mauvaise pensée sans nom. Qui ce matin entend peut-être la voix du Seigneur lui dire pourquoi? Quelles pensées sont en toi ce matin, mon frère, ma sœur, et ne devraient pas y être? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Laisse la paix de Dieu venir sur toi. Mets ta foi dans la parole et tu verras la différence. Est-ce qu'il y a des réflexions terrestres? Est-ce qu'il y a des conseils de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui te hantent et qui t'amènent à passer à côté de ce que Dieu a pour toi? Le Seigneur veut te donner sa pensée, son plan, ses projets à lui. Est-ce qu'il y a peut-être un déséquilibre? Tu es très impliqué dans quelque chose et tellement peu pour les choses de Dieu. Mais le Seigneur t'invite à le remettre en premier dans ta vie. Il n'est pas là pour t'accuser, il est là pour te bénir. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, ces questions que tu as posées à ces personnes. Combien les disciples qui ont entendu tellement de fois, c'est pourquoi, ont pu être transformés par toi. Quand on voit ce qu'ils ont pu devenir par la suite, on comprend qu'ils ont bien réagi. Quand on voit Marie de Magdala aussi, Seigneur, qui a compris que tu étais en face d'elle, elle est devenue la première à parler de ta résurrection. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Quand on voit ce que tu as fait de Saul de Tarse, ce puissant missionnaire qui a béni tellement et tellement de gens parce qu'il a laissé ce pourquoi pénétrer jusqu'au plus profond de son âme. Mais Seigneur, ce matin, c'est ce que nous voulons. Que ta parole vienne en nous et puisse déloger au fond de nous ce qui n'est pas de toi. Tu vois l'ennemi qui aime bien faire de nous ses marionnettes, avec ses pensées fausses, avec ses peurs. Mais nous voulons, Seigneur, laisser ta lumière briller. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin. Bénis ceux qui sont dans ce lieu, ceux qui cherchent une direction, ceux qui cherchent une confirmation. Tu es le Dieu, Seigneur, qui va encore briller de ta lumière dans les cœurs, afin que tes plans, tes projets s'accomplissent pour les uns et pour les autres, Seigneur. Amen.